Il est midi et demi, place au journal de la mi-journée sur Europe 1 avec vous Fabienne Lemoelle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Aujourd'hui on va essayer d'attraper un train, tant pis pour la qualité du voyage, ce qui compte c'est qu'on réussisse à rentrer.
Trafic toujours très perturbé à la SNCF pour les départs en vacances de Noël, un TGV sur deux, un TER sur trois en moyenne, mais dans les gares, pas de scène de cohue, nous le verrons, car visiblement les vacanciers ont préféré parfois de ne pas prendre le train. Trafic toujours perturbé, pas de trêve des cheminots pour Noël, la CFDT poursuit la grève. Seule l'UNSA dit oui à une pause, mais pas à n'importe quel prix.
Si au mois de janvier, le gouvernement n'a pas bougé sur les fondamentaux, eh bien nous n'hésiterons pas à nous mobiliser. Et je peux vous dire qu'en janvier, il risque d'y avoir des grosses mobilisations encore.
La réforme des retraites avec l'âge pivot qui crispe, on en parlera avec mon invité Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Des dizaines de milliers de civils qui fuient les bombardements dans le nord de la Syrie depuis quelques jours. Et le médecin humanitaire Raphaël Pitti qui en appelle aux Nations Unies.
Il faut d'abord arrêter les combats. Cette population est prise au piège entre le régime et les rebelles et de surcroît cette population a peur du régime.
Toujours dans le journal de la mi-journée, le journal des sports avec la descente de Val d'Isère annulée à cause des chutes de neige. La météo avec 18 départements en vigilance orange en prévision de la tempête Fabien qui va commencer à souffler cette nuit sur le sud-ouest avant de toucher la Corse. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec tout terrain, les émissions des reporters d'Europe 1. Témoignage exceptionnel, un an après l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, le chauffeur de taxi qui est resté 15 minutes sous la menace de l'arme de shérif Chekat parle pour la première fois. Récit glaçant au micro de Jeanne Bargaoui.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Pas de pause donc dans les perturbations à la SNCF pour les départs en vacances de Noël. Un TGV sur deux, un TER sur trois et 20% des Transiliens qui circulent aujourd'hui. Voilà qui pourrait provoquer beaucoup de tensions dans les gares pour ceux qui partent réveillonnés en famille. Marion Gauthier, vous vous trouvez gare Montparnasse à Paris. Et depuis ce matin, vous me l'avez dit, c'est étonnamment calme autour de vous car visiblement beaucoup de voyageurs se sont organisés ou ont même décidé de renoncer à prendre le train.
Oui, ce n'est pas l'affluence des grands jours. La foule est pour le moins clairsemée dans le grand hall et sur les rails, plusieurs trains sont partis avec des sièges vides. Henri compte parmi les heureux élus dont les billets ont été confirmés, mais pour éviter tout stress, il avait prévu de faire sans la SNCF.
Quand on a su qu'il y aurait une grève, on a mis en œuvre tous les moyens possibles pour rejoindre la destination. On a loué une voiture qu'on a pu annuler, donc on a pris nos précautions effectivement avant l'annonce de la circulation de notre train. On sera soulagé quand on sera arrivé, mais pour l'instant, on n'est pas inquiet.
Et encore faut-il avoir un trajet direct. Pour James, venu de La Réunion, Montparnasse, c'est le départ d'un parcours du combattant.
D'annuler tous les trains comme ça, de devoir réserver à la dernière minute des bus, du covoiturage, louer des voitures. Il faut avoir de l'argent aussi pour payer tout ça en complément. Et ça décale aussi tout ce qui est réservation d'hôtels et toutes les autres activités derrière. Ça ne s'est jamais arrivé, une galère comme ça.
La patience est preuve reine de ces grèves. Alice s'en accommode, elle est bien installée, ses bagages éparpillés autour de son déjeuner.
Durant ces derniers jours, donc on a dû changer de train à peu près 15 fois parce qu'ils étaient tous annulés. Donc aujourd'hui, on va essayer d'attraper un train. Tant pis pour la qualité du voyage, ce qui compte, c'est qu'on réussisse à rentrer.
Rejoindre sa famille, fêter Noël et oublier Paris, c'est tout ce que demande Alice. Surtout, ne pas penser au retour.
Marion Gauthier, gare Montparnasse à Paris. Hier, la SNCF a finalement annoncé qu'elle allait faire voyager les 5000 enfants seuls qui doivent rejoindre leur famille pour les fêtes. Ce sera demain à bord de 14 TGV mis en place spécialement pour eux. Donc on le disait, pas de pause dans les perturbations. La trêve des cheminots que le gouvernement espérait pour Noël n'aura pas lieu. Après la CGT, Sudrail, la CFDT cheminots a décidé hier de poursuivre la grève à la SNCF, Maude Descamps.
Oui, finalement, un seul syndicat a indiqué qu'il ferait une trêve pendant cette période de fête. Il s'agit de l'UNSA, deuxième syndicat de la SNCF, mais qui ne représente que 7% des conducteurs. Et il s'agit d'une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les adhérents, dont une grande partie va poursuivre la grève, comme l'a reconnu Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA, ce matin sur Europe 1.
Il y a effectivement cette région qui ne sont pas d'accord avec ces décisions, mais ça s'appelle la démocratie. Moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Une trêve, ce n'est pas un arrêt. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur cette réforme des retraites. Donc si au mois de janvier, le gouvernement n'a pas bougé sur les fondamentaux tels que l'âge pivot et la réforme paramétrique, eh bien nous n'hésiterons pas à nous mobiliser et je peux vous dire qu'en janvier, il risque d'y avoir des grosses mobilisations encore.
Du côté de la CFDT, on a voulu éviter des dissensions entre une direction qui souhaitait une trêve mais qui a été rejetée par les cheminots, la CFDT qui a tenté de ne pas répéter ses erreurs du passé. En 2003, le syndicat s'était déjà divisé sur la réforme des retraites. Et enfin, à la CGT, syndicat majoritaire, et chez Sudrail, la question de la trêve a très vite été balayée puisque ces deux syndicats demandent tout simplement le retrait complet de la réforme.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1, bien loin de Paris. Emmanuel Macron a fait une brève allusion à ce dossier sensible des retraites lors de son déplacement en Côte d'Ivoire. Le président est venu partager le traditionnel repas de réveillon avec un millier de soldats, alors que l'armée est encore marquée par la mort de 13 hommes au Mali. L'occasion pour le chef de l'État de rendre hommage à ses militaires et de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas concernés par la réforme à venir, vu la spécificité de leur mission.
Cette condition militaire, que nous ne devons jamais oublier, dans ce qu'elle emporte d'unique et dans tout ce qu'elle exige, de ce que vous donnez à la nation et de ce que la nation vous doit, à tous égards. J'en suis le garant et j'en serai le garant pour tout ce que cela emporte. Quand on est militaire, on ne touche pas la retraite, on a une pension. C'est différent, tout est différent.
Emmanuel Macron à Abidjan devant Jean-Rémy Baudot, ce dossier si sensible des retraites. Nous y reviendrons dans 10 minutes avec le directeur du Cercle de l'Épargne, Philippe Crevel, il est mon invité.
Vous écoutez Europe 1, il est 12h36, Fabienne Lemoyle.
Et ça y est, le gouvernement a tranché, il y aura bien une distance minimale pour pulvériser des pesticides à 5 ou 10 mètres des habitations. La décision était très attendue, elle doit s'appliquer à partir de janvier, mais comme a pu le constater Nicolas Feldman, elle ne satisfait personne.
D'un côté, les opposants aux pesticides.
Nous sommes stupéfaits.
De l'autre, la FNSEA, syndicat majoritaire chez les agriculteurs.
C'est vraiment une incompréhension.
Le premier, Daniel Cueff, maire de Langouette en Ille-et-Vilaine, avait pris un arrêté depuis annulé par la justice. Son combat fixait 150 mètres entre les zones d'épandage et les maisons, avec une limitation de 10 mètres. On est donc très loin du compte.
10 mètres, on a le nez sur le champ. Alors qu'est-ce qu'on fait des gens qui habitent à côté? Sauf à leur dire, mais non, c'est comme le nuage de Tchernobyl, vous savez, ça va rester. Rester sur le champ, ça ne va pas venir chez vous, hein, et c'est insupportable.
Du côté de la FNSEA, imposer une distance sans pesticides, même de 10 mètres, c'est moins d'hectares à cultiver et donc un manque à gagner. Éric Tirouin, secrétaire adjoint du syndicat et céréalier en Eure-et-Loire.
Vous avez un impact à peu près de 1500 euros par hectare et puis vous pouvez monter en dizaines de milliers d'euros si vous êtes sur un hectare de vigne. Ben, vous imaginez les conséquences sur le revenu des agriculteurs. Donc ça, qui est-ce qui va le prendre en charge?
Et le gouvernement prévoit une enveloppe, 25 millions d'euros pour aider les agriculteurs à réduire leur utilisation de pesticides.
Nicolas Feldman, deux adolescents de 16 ans en garde à vue depuis hier soir au commissariat de Juvisy-sur-Orge en région parisienne pour leur implication dans le viol d'une adolescente qui a été filmée, largement diffusée sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui a suscité des réactions scandalisées de la part de nombreux internautes qui ont alerté la plateforme Pharos, une plateforme du ministère de l'Intérieur. La police nationale a depuis demandé par tweet de ne pas relayer la vidéo et a Twitter de la supprimer systématiquement dès qu'elle apparaissait. À suivre, le cri de colère du médecin Raphaël Pitti face à la situation humanitaire catastrophique dans la poche d'Idlib en Syrie. Des dizaines de milliers de civils fuient actuellement les bombardements.
Il est 12h40, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
Et ils sont plusieurs dizaines de milliers de civils à fuir depuis quelques jours les bombardements dans le nord de la Syrie qui touchent la région d'Idlib. Une situation qui vire à la catastrophe humanitaire pour le médecin Raphaël Pitti qui a des équipes qui interviennent dans cette zone.
Il faut d'abord arrêter les combats, arrêter, et essayer de trouver une solution politique. On ne peut pas, cette population est prise au piège de ces combats entre le régime et les rebelles, et de surcroît cette population qui a fui Alep, qui a fui la Ghouta, est une population qui a peur du régime. Et donc on est devant une situation catastrophique. Il est important que l'ONU intervienne, que toutes les diplomaties occidentales fassent pression sur la Russie pour qu'on arrête immédiatement ces combats et qu'on pense à ces populations. Or, maintenant, nous rentrons en plus dans l'hiver. Il y a maintenant le froid, des pluies torrentielles en même temps. Et je vous dis déjà, elles commencent à se déplacer vers le nord de la Syrie, donc vers la Turquie, vers la frontière turque, au risque de voir ces millions de personnes forcer la frontière et pénétrer en Turquie. Et ce serait de nouveau une véritable catastrophe, quoi.
Le cri de colère de Raphaël Pitti ce midi sur Europe 1 avec Pierre Herbulot face à la situation dans la poche d'Idlib au nord de la Syrie. Incroyable mais vrai, Marlène, j'ai envie de dire, avec cette découverte exceptionnelle des chercheurs de l'Université de Copenhague au Danemark qui ont réussi à retirer un ADN humain à partir d'un chewing-gum vieux de 5700 ans. Écoutez la suite, c'est l'heure d'Autriche.
Ce chewing-gum est un résidu d'écorce d'arbre. Il est constitué de résine, de bouleau, et il est vieux de 5700 ans. Les chercheurs danois ont réussi à extraire l'ADN de cette substance. Résultat, le chewing-gum a été mâchouillé par une femme qui faisait sans doute partie des chasseurs-cueilleurs qui vivaient à cette période. Les bactéries retrouvées ont aussi permis de reconstituer son dernier repas, du canard et des noix. On a même des éléments qui nous permettent de savoir quelle apparence avait cette femme, dit Céline Bon, paléogénéticienne au Muséum d'Histoire Naturelle.
On voit dans son génome des mutations qui sont associées aujourd'hui au fait d'avoir des yeux bleus. On en déduit donc qu'elle avait des yeux bleus. En revanche, on ne voit pas les mutations qui sont associées au fait d'avoir des cheveux clairs ou la peau claire. On en déduit donc qu'elle avait le teint sombre et les cheveux sombres. Obtenir comme ça, sur un seul élément, autant d'informations est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Mais les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi, il y a 5700 ans, cette femme a malaxé ce chewing-gum entre ses dents. Cette pâte servait parfois de colle, mais pouvait être aussi utilisée pour soulager le mal de dents ou servir de brosse à dents.
Voilà, lors d'Autriche, on imagine si on retrouve des vieux bouts de chewing-gum maintenant sous la table. Voilà ce qui se passera dans 5000 ans. Dans un instant, dans une minute, le journal des sports avec le championnat de France de football.
Le journal des sports.
Avec Axel May. Bonjour Axel.
Bonjour.
Football, dernière journée de l'année du championnat de France de football et tous les matchs auront lieu à la même heure ce soir.
Oui, avec un multiplex comme cela se faisait dans le temps. 10 matchs à suivre à partir de 20h45. Le leader, le PSG, reçoit Amiens et Marseille, surprenant deuxième, accueillera Nîmes. André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, veut rester les pieds sur terre. Écoutez ce très court extrait de sa conférence de presse d'avant-match.
Je sais que culturellement, dans l'OM, on s'enflamme et j'espère que non.
Voilà, culturellement, on s'enflamme, c'est ce que dit l'entraîneur de Marseille au micro de Stéphane Frangy.
Il a tout compris. Rapidement, les autres rencontres de cette 19e journée de Ligue 1.
Lille, 3e, jouera à Monaco. Rennes, 4e, recevra Bordeaux. Nantes accueillera Angers, un derby de l'Ouest en somme. Lyon, qui ne pointe que la 9e place du championnat, sera à Reims. Et puis aussi Nice, Toulouse, Dijon, Metz, Montpellier, Brest, Strasbourg, Saint-Etienne. 10 matchs donc à suivre dans Europe 1 Sport ce soir. Un mot du championnat anglais. L'entraîneur italien Carlo Ancelotti rejoint Everton, on vient de l'apprendre, Ancelotti, qui avait été licencié de Naples.
Et puis pour ceux qui préfèrent le ballon ovale, c'est la 11e journée du championnat de France de rugby et ça débute cet après-midi.
Trois matchs programmés à 15h35, c'est précis. Bayonne-Brive, le Racing 92 Montpellier et Lyon, le leader qui est en déplacement à Castres. Lyon, qui n'a plus que le championnat à jouer après avoir perdu face aux Italiens de Trévise le week-end dernier. Tout espoir de qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Le manager lyonnais, Pierre Mignoni.
Non, mais de manière, tous les matchs sont importants pour remettre la marche avant. Donc voilà, là, on a trois matchs de championnat. On a fini la Coupe d'Europe. Donc c'est bien, on va se concentrer sur ces trois matchs et on fera le bilan un peu plus tard.
Il reste en effet, en comptant le match du jour, trois matchs de championnat à disputer pendant les vacances de Noël.
Les autres rencontres du jour?
Eh bien, une seule autre rencontre au programme. À 17h45, Agen face à Toulouse. Les autres matchs de cette 11e journée de Top 14 sont programmés demain.
Et puis, journée frustrante pour les spectateurs à Val d'Isère.
La descente féminine de la Coupe du Monde de ski alpin qui devait se dérouler aujourd'hui a été annulée en raison d'importantes chutes de neige qui ont touché cette nuit à la station savoyarde. Chez les messieurs, c'était à Val Gardena, en Italie, que devait avoir lieu l'épreuve de descente et là aussi elle a été annulée en raison des mauvaises conditions météo. Mais si vous aimez le biathlon, il y a le Grand Bornand avec la Coupe du Monde ce week-end.
À suivre, merci beaucoup Axel, mais justement il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi. C'était très agité depuis hier dans le sud-est avec un homme porté disparu dans le golfe de Fos-sur-Mer qui est tombé de son voilier. L'aéroport d'Ajaccio est fermé aussi en Corse et désormais Valérie Darmon, c'est la tempête Fabien qui est attendue la nuit prochaine avec 18 départements en vigilance orange.
Absolument Fabienne, tous les départements allant de la Gironde au Pays Basque pour vents violents, inondations, vagues submersions à partir de cette fin de journée. Les rafales attendues sont de 100 à 120 km/h dans l'intérieur des terres, pouvant atteindre 130 à 140 près des côtes, voire un peu plus en bord de mer, avec un pic entre 22h ce soir et 4h du matin la nuit prochaine. Sur les départements limitrophes, on pourra observer aussi de très fortes rafales voisines de 100 km/h, voire un petit peu plus sous les fortes pluies, mais de manière plus localisée et surtout sur une durée plus brève. Pendant ce temps-là, dans le sud-est, les crues persistent aussi sur certains cours d'eau du Gard, du Vaucluse et des Bouches du Rhône. En revanche, la situation s'est calmée en Corse jusqu'à demain, parce que cette nouvelle dégradation va traverser la France en 24 heures. Les températures sont au-dessus des normales de saison ce samedi, entre 10 à Charleville ou encore au Puy-en-Velay et Verdun, et 19 degrés à Biarritz et à Pau.
Merci Valérie Darmon, on vous retrouve dans quelques minutes pour la météo des neiges. À suivre, le Premier ministre a donc donné rendez-vous en janvier aux partenaires sociaux pour discuter de la réforme des retraites au cœur des débats. Depuis jeudi, l'âge pivot, dont beaucoup de syndicats ne veulent pas. On va demander à mon invité Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l'épargne. Il est mon invité si cet âge pivot est vraiment un impératif pour cette réforme.
Il est midi 50, on retrouve Fabienne Lemoyle pour le journal de la mi-journée qui se poursuit à présent avec le témoin de la semaine.
Et donc pas de trêve sur le front de la grève à la SNCF au 17e jour de mobilisation. Il n'y a qu'un syndicat, l'UNSA, on l'a entendu dans le journal, qui appelle à faire une pause, mais la base n'est pas décidée à suivre la consigne visiblement. La prochaine étape de cette réforme des retraites après les discussions jeudi à Matignon, c'est l'envoi du texte au Conseil d'État avant sa présentation en Conseil des ministres le 22 janvier. Et le Premier ministre qui a déjà prévu de revoir les partenaires sociaux début janvier. Bonjour Philippe Crevel.
Bonjour.
Économiste et directeur du Cercle de l'épargne, merci beaucoup d'être avec nous en studio ce midi. Depuis jeudi, on l'a entendu, ce qui crispe les débats, c'est la question de l'âge pivot. Laurent Berger, le patron de la CFDT, a dit « je n'en veux pas ». Édouard Philippe dit « il y a des marges de manœuvre pour cet âge d'équilibre ». Une seule question Philippe Crevel, est-ce que finalement il y a un impératif économique à maintenir dans ce texte, ce principe de l'âge pivot qui crispe tout le monde ?
Alors cet âge pivot ou cet âge d'équilibre à 64 ans, depuis le départ évidemment, ça crée des tensions. Pourquoi le gouvernement y tient ? C'est qu'en fait, la crainte aujourd'hui, c'est que les Français, qui aiment partir tôt à la retraite, utilisent le système par points pour liquider leur pension dès 62 ans. Or, dans le système actuel, il y a la durée de cotisation, il faut avoir 42 années de cotisation pour pouvoir bénéficier de la retraite à taux plein, ou il faut attendre 67 ans. Ce dispositif a un objectif clair, c'est d'éviter évidemment des départs précoces et donc d'avoir des dépenses de retraite qui augmentent fortement. D'où l'idée de l'âge d'équilibre de 64 ans, qui a été calculé depuis plusieurs années par le Conseil d'orientation des retraites, en disant que c'est l'âge qui permet un petit peu d'équilibrer les comptes des régimes de retraite, en dissuadant les Français de partir trop tôt.
Vous me disiez même, ça existe finalement déjà, dans certains cas, cet âge pivot.
Eh oui, cet âge pivot, parce qu'une durée de cotisation de 42 ans, quand on commence à travailler à 22 ans, c'est la moyenne, en fait, aujourd'hui, de l'arrivée sur le marché du travail. 22 plus 42, ça fait 64 ans. Et si on ne respecte pas ces 42 années, il y a déjà aujourd'hui une décote. Par ailleurs, pour les complémentaires, Agirc-Arrco, ça concerne tous les salariés du privé. Depuis le 1er janvier 2019, l'âge pivot, c'est l'âge légal, 62 ans, plus une année. C'est 63. C'est pas 64, mais on s'y rapproche.
On entend votre pédagogie, Philippe Crevel, mais on voit bien quand même, ça crispe particulièrement Laurent Berger qui était favorable justement à la réforme de cette retraite avec une retraite à points. Comment ne pas pénaliser ceux qui commencent à travailler plus tôt, donc avant 22 ans, ou qui ont un travail pénible ?
Alors, le gouvernement sur le sujet, avec donc la dernière déclaration d'Edouard Philippe, a, on va dire, ouvert deux voies. Premièrement, c'est la reconnaissance des carrières longues, c'est également, la deuxième voie, l'amélioration du compte de pénibilité en doublant les points possibles, en prenant en compte d'autres critères que ceux qui sont actuellement reconnus. Pour le moment, ça ne suffit pas à la CFDT pour accepter l'âge pivot de 64 ans, car dès le départ, donc la CFDT avait indiqué qu'il ne fallait pas avoir une vision paramétrique ou plutôt une vision d'équilibre financier.
Voilà, c'est les mots qui font peur entre paramétrique, systémique.
Voilà, il voulait avant tout une réforme, sa réforme par points, et qu'on ne traite pas la question de l'âge de départ à la retraite.
Mais surtout, quand je vous entends, Philippe Crevel, on arrive finalement à du cas par cas, puisqu'on a vu, par exemple, le régime spécial, entre guillemets, qui va être pour les policiers. Hier soir encore, à Abidjan, on l'entendait dans le journal, Emmanuel Macron qui rassurait les militaires.
Il faut rajouter le personnel hospitalier. On va ajouter des dispositions spécifiques pour les régimes spéciaux.
Du coup, elle est où la réforme universelle ?
Donc, c'est vrai qu'on va perdre un petit peu. Donc, l'objectif de simplification, un euro cotisé donne les mêmes droits pour tous. slogan qui avait bien fonctionné pendant la campagne présidentielle. Et du fait de la complexité de notre système de retraite, il est difficile évidemment de l'appliquer stricto sensu. Car la retraite, c'est le miroir de la société, c'est le miroir de notre histoire sociale. Et en fait, on est tous des cas particuliers en matière de retraite, parce qu'on a des carrières professionnelles, on a pu changer de statut, on peut être dépendant de statut de la fonction publique, puis après dans le privé. Et donc, il est très difficile d'avoir une règle unique en matière de retraite. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans le cas des négociations.
Et du coup, Philippe Crevel, je reviens à ma première question. À ce point de vue, dans le monde du démographe Hervé Lebras, qui dit qu'il n'y a pas d'urgence à prendre des mesures d'économie un peu provocateurs. Il dit même, quand on a vu l'État lâcher 17 milliards pour calmer la révolte des Gilets jaunes, il ne semble pas qu'un déficit de 5 milliards soit insurmontable. Vous, l'économiste, vous lui répondez quoi ?
Le problème, c'est le 5 milliards de trop. C'est qu'on rajoute des milliards aux milliards. La France n'est pas un pays avec une gestion publique extrêmement rigoureuse. Et puis, d'autre part, c'est 5 milliards qui peuvent demain
donc
être...
Donc cet âge d'équilibre pour vous, en tout cas, Philippe Crevel,
oui,
l'économiste,
puis,
il est nécessaire.
Les 5 milliards, il faut les payer, et c'est les faire payer aux actifs à un moment ou à un autre, aux jeunes. Et donc, c'est pénaliser l'emploi, et c'est peut-être pénaliser aussi le niveau de vie des actifs et des jeunes générations qui sont aujourd'hui très concerné par cette question du pouvoir d'achat.
En un mot, je sais que c'est compliqué, mais est-ce qu'on ne va pas vers un système de répartition qui disparaîtrait, la porte ouverte, hein, ce qu'on a appelé la capitalisation avec les fonds de pension ? C'est ce que disent beaucoup.
Le régime par points que le gouvernement entend mettre en place, c'est un régime par répartition. Les cotisations payées par les actifs servent à financer les pensions de retraite. La capitalisation en France, aujourd'hui, c'est 2,3% des revenus des retraités. C'est très très loin de la moyenne européenne ou de l'OCDE où on est à 17%. C'est certain que dans les prochaines années, pour maintenir le niveau de vie des retraités, il faudra peut-être un peu plus de capitalisation. Mais ce n'est pas, on va dire, la fin de la répartition et le
on n'est pas en train
de
basculer dans un nouveau système pour l'instant.
Système. Non, non, il ne faut pas exagérer.
Merci beaucoup Philippe Crevel, je rappelle économiste et directeur du Cercle de l'Épargne, de nous avoir éclairé. On voit que le chemin est encore long dans les discussions qui vont reprendre en janvier. On verra ce qui se passera en coulisses et on verra aussi quel texte va être présenté au Conseil d'État dans les jours qui viennent. Vous le savez, à 13h, on poursuit cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Un témoignage exceptionnel à ne pas rater un an après l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Le chauffeur de taxi qui est resté 15 minutes sous la menace de l'arme de Shérif Chekat parle pour la première fois. Un récit glaçant au micro de Jeanne Bergaoui.
Europe 1.